Vous aimez ce podcast ? Soutenez-le grâce à l'option Acast Supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Salut, je m'appelle Solène Rigoulet et bienvenue dans Friendship. Tous les derniers jeudis du mois, je t'invite à la réflexion sur le rapport que l'on entretient à l'amitié à travers la pop culture, autrement dit le cinéma, les séries, la musique, les podcasts ou encore les jeux vidéo. Et j'avais très très envie de recevoir une autrice que tu as déjà entendue à mon micro. Elle s'appelle Capucine Delattre. Tu as découvert son histoire avec son amie Philippine dans l'épisode de janvier. Et aujourd'hui, tu vas découvrir la création d'amitié dans les romans. Capucine, elle a écrit son premier roman à l'âge de 19 ans. Son livre « Les Déviantes » raconte l'histoire de trois jeunes femmes, dont deux sont meilleures amies. Le roman de Capucine m'a beaucoup questionnée, j'avais très envie de lui demander si l'histoire de ces personnages fictifs était l'histoire de Capucine et Philippine, et comment est-ce qu'elle peut arriver à créer des relations fictives aussi belles que celles qu'on peut découvrir dans la vraie vie. Tu peux donc écouter notre échange et son interview dans cet épisode. Reste bien jusqu'à la fin, tu auras droit à une petite surprise. Merci à Capucine d'avoir une nouvelle fois accepté mon invitation. Et si tu souhaites échanger sur l'épisode, tu peux retrouver Friendship sur Instagram. Je serai évidemment ravie d'avoir ton retour. Tu peux aussi partager l'épisode autour de toi. Tu trouveras tout ce dont on parle dans la description de l'épisode. Et sur ce, je te souhaite une très bonne écoute.
Vous les copains, je ne vous oublierai jamais.
Dans l'amitié, il n'y a pas de fidélité. Pas de légitimité à être jalouse, par exemple. Il n'y a pas d'alliance, pas de cérémonie, pas de champagne pour célébrer une amitié. Pourtant, de toutes les relations qu'on a dans la vie, il y a des chances pour que les amitiés soient celles qui durent le plus longtemps.
L'homme le plus riche est celui qui a les amis les plus puissants. You can count on me like 1, 2, 3, I'll be
there. Et à quoi ça sert, les amis, si on peut pas leur parler de ce qui compte vraiment?
N'est-ce pas vous-même qui m'avez dit que rien ne remplaçait une véritable amitié?
Ton ami, c'est moi, tu sais, je suis ton ami.
Salut Capucine, je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui.
Mais
parce
moi
que...
aussi, bonjour Sarah. Bonjour. Alors c'est pas la première fois qu'on
oui,
se
non,
parle.
Oui non c'est ça, on a déjà enregistré ensemble donc l'épisode avec Philippine, mais là cette fois on se voit et donc c'est
en
assez
chair et en os.
Exceptionnel. Et donc là avec toi on va parler donc des amitiés dans les romans, hein, parce que c'est ton dada on va dire.
La spécialité, oui.
Et du coup ouais, avant de commencer un peu l'épisode, est-ce que tu peux juste te représenter pour ceux qui n'auraient pas écouté l'épisode avec Philippine pour savoir un peu qui tu es?
Bien sûr, bon alors première chose, si vous n'avez pas écouté l'épisode avec Philippine, allez-y parce que Philippine est quelqu'un d'incroyable et vous avez besoin de l'entendre. C'est moi qui vous le dis. Et du coup, donc, pour me présenter, je m'appelle Capucine Delattre, j'ai 20 ans. Je suis étudiante à Sciences Po en master communication, médias et industrie créative. Et je suis aussi écrivaine et j'ai publié mon premier roman aux éditions Bellefond il y a quelques mois. Ça s'appelle Les Déviantes et moi je trouve que c'est pas mal comme roman. Donc
Je peux confirmer. Du coup, en fait, on enregistre un peu après cet épisode de témoignage que t'as fait avec Philippine parce que j'avais pas eu le temps encore de finir le livre. Là, ça y est, je l'ai terminé. Donc vraiment, on peut le conseiller.
Alors, qu'en as-tu pensé? Beaucoup de mal.
Et bah, alors moi, j'ai vraiment aimé. Enfin, au début, j'ai eu un peu du mal à me mettre dedans parce que là, il y a un des personnages qui est atteint d'un cancer et donc c'est vrai que c'est une thématique qui moi me touche particulièrement en ce moment. Donc j'ai eu un peu de mal à me dire. Je vais dire quelque chose comme ça maintenant et tout, c'est compliqué. Mais en fait, une fois que j'étais lancée, j'ai pas lâché le livre.
En fait, pour expliquer, le personnage principal qui s'appelle Anastasia, c'est donc une jeune femme d'environ 30 ans qui est atteinte d'un cancer du sein. Et c'est le point de départ du roman. Sauf qu'en fait, c'est pas le sujet en soi
du roman.
C'est pas un roman sur la maladie, le cancer, mon Dieu, c'est très triste. Enfin, c'est très triste, mais en fait, c'est pas le cœur du sujet. Le roman part du cancer comme un déclencheur. Et de la maladie en général, en fait, et puis après, part vers d'autres questionnements, notamment sur l'amitié, entre autres. Et puis voilà, l'ambition, la vie, le bonheur, tout ça. Beaucoup de choses, mais du coup, voilà, le cancer, en fait, petit à petit, perd en importance. Enfin, c'est toujours un sujet qui est là, hein, bien sûr, mais c'est pas, encore une fois, le cœur du sujet. Et c'était important pour moi aussi, en fait, dans la mesure où j'ai aussi un vécu particulier avec le cancer. Et j'avais envie d'en parler, mais j'avais envie aussi de montrer qu'il y a une vie au-delà du cancer et que ça ne va pas forcément être une tragédie qui interrompt tout et qui brise la vie, et voilà.
Oui, c'est ça. En fait, c'est vrai que, je sais pas, c'est peut-être sur les 10 premières pages où vraiment on est dedans à fond au niveau du cancer, et après, ça, c'est juste le point de déclenchement, mais forcément, il en faut un dans n'importe quel roman. Et du coup, c'est vrai que les 10 premières pages, je me suis dit... Oh,
franchement
Non, mais j'aimais bien, mais je me suis dit, si vraiment tout... Enfin, je sais pas combien il fait, peut-être 200 pages de livre.
250,
Je me suis dit, si c'est que tout ça... Je vais avoir du mal à arriver au bout, même si c'est très bien écrit, que l'histoire est chouette. Je me suis dit, ça va être lourd mentalement pour moi. Et en fait, pas du tout. Au bout de 10 pages, on va au-delà et on se pose d'autres questions qui sont bien c'est au-delà ça. Que juste la maladie. Donc, c'est ça qui est hyper intéressant. Donc, bravo.
Merci.
Surtout que j'ai vu que t'avais publié le livre, donc il est sorti cet été.
Il est sorti, fin août.
Et t'avais 19 ans.
Ouais.
Waouh, bravo.
Donc écoute, c'était vraiment chouette comme petit accomplissement. J'étais, en fait, je pensais pas que ça arriverait si tôt dans ma vie. J'ai toujours beaucoup aimé lire et écrire, et c'était mon ambition ultime d'arriver à publier un roman. Et je savais que je tenterais aussi tôt que possible, mais je pensais pas vraiment que ça marcherait si vite.
Ouais.
Voilà.
Et comment, parce que c'est vrai que quand on écoute des interviews d'auteurs, d'autrices, etc., ils disent beaucoup qu'ils s'inspirent quand même de leur vie, de ce qu'ils peuvent rencontrer, des choses qu'ils ont dans leur vie. À 19 ans, t'en as vécu des choses, bon maintenant t'en as 20, mais on se dit, t'as tout mis dans ce roman, et comment tu vas faire pour la suite?
Ça, c'est une vraie question, en fait, qu'on se pose. Alors là, maintenant, je vais parler en tant qu'écrivaine. Nous autres, les écrivains, non, c'est faux, en vrai, bon, bref. En fait, quand on écrit, la question c'est est-ce que je vais pas quelque part me griller si je dis tout maintenant dans ce livre, est-ce qu'il faut pas que j'en garde un peu pour plus tard? Et en fait, ce que j'apprends et ce que je constate, c'est que il faut pas avoir peur de ça. En fait, il faut pas se dire non, je garde des choses et je les dirai plus tard. Il faut écrire chaque roman comme si c'était le dernier et tout mettre dedans, mettre toute ta vérité dedans. Parce qu'en fait, attention, phrase extrêmement niaise et cliché, mais c'est vrai, la vie te surprend après, et tu te retrouves à changer, à vivre des choses en l'espace de quelques mois que t'aurais jamais cru possible de vivre. Tu te retrouves à changer. Enfin, moi, tu vois, les déviantes, alors aussi, il y a le côté, lent de l'industrie de l'édition qui joue, dans le sens où les déviantes, c'est un roman que j'ai fini il y a un an et demi maintenant, et tu vois, qui est, entre guillemets, mon actualité. Alors qu'il y a un décalage, et que moi, en fait, j'ai beaucoup changé entre-temps, le moment où j'ai posé le point final, où j'avais tout juste 19 ans, et aujourd'hui, où j'en ai 20, enfin voilà. Dit comme ça, on me dit, ouais, bon, elle a vécu un an et demi, c'est pas non plus, mais il peut se passer beaucoup de choses.
Oui, non, mais c'est vrai qu'il y a
une
différence,
voilà. Et quand je vois ce que j'écris aujourd'hui, et les thématiques qui me portent aujourd'hui, et la façon dont j'écris aujourd'hui, ça a beaucoup évolué. Et quelque part, c'est un peu vertigineux, parce que tu te dis, mais waouh, j'ai changé, qui suis-je? Et en même temps, ça te donne beaucoup d'espoir et d'envie et de motivation, parce que tu te dis qu'est-ce que ça va être dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Après voilà, on n'en est jamais à l'abri d'une panne d'inspiration, d'un syndrome de la page blanche, mais je m'inquiète pas, j'essaie de pas m'inquiéter pour ça, je me dis que voilà, j'ai toujours eu des idées et que je peux pas inventer les idées que j'aurai plus tard, tout comme on peut pas inventer les rencontres qu'on fera plus tard, on peut pas inventer ses futurs amis, voilà, on les accueille.
Et puis c'est ça, c'est aussi, il y a les gens qui entrent dans nos vies, ceux qui s'en vont, clairement. Et tout, donc ça crée de nouvelles histoires, forcément.
Clairement. Et puis on lit des livres entre-temps, on regarde des films, on fait... Alors j'allais dire on fait des voyages, non, on ne fait plus de voyages.
Depuis un an, c'est mort.
Ouais. En fait, En fait, avoir des idées, c'est la partie la moins difficile. En général, on a tendance à beaucoup sacraliser le fait d'avoir des idées nouvelles, de dire « Oh là là, mais comment tu fais pour avoir une idée ? Comment tu fais pour trouver un thème et tout ?» En fait, finalement, quand on arrive à apprendre à écouter ses idées, on se rend compte qu'on a des idées tout le temps, qu'on a toujours plein de projets, plein d'idées, plein d'inspirations. Le plus difficile, en fait, c'est de se poser, de dire « Ok, cette idée, je vais en faire quelque chose, je vais la structurer. » C'est un peu ingrat comme travail, mais c'est aussi hyper, hyper enrichissant, hyper épanouissant. Enfin, tu grandis beaucoup.
Mmh. Voilà. Et du coup, hyper intéressant. On va revenir juste sur le livre. Donc, Les Déviantes, c'est l'histoire de Anastasia, Iris et Lolita. Oui. Lolita, je l'avais un peu à part dans l'histoire parce que c'est la petite sœur d'Anastasia, alors que Anastasia et Iris sont vraiment des meilleures amies. Hein. Je sais pas si le terme est le bon, mais en tout cas, voilà. Et surtout que c'est assez intéressant parce que dans ton épisode de témoignage justement avec Philippine, quand je vous ai demandé à quelle amitié fictive est-ce que vous pourriez ressembler, vous avez cité cette amitié-là, et là j'ai amené le livre, parce que je trouve qu'il y a un passage qui est hyper intéressant, et qui est hyper honnête et sincère au niveau de l'amitié, et j'aimerais bien que tu lises ce passage, et après qu'on en parle ensemble.
Très bien. Certaines amitiés ressemblent à des accidents du hasard plus qu'à autre chose. Des paires si mal assorties qu'elles en deviennent intrigantes, des combinaisons papillonnantes dont on sait qu'elles ne dureront jamais bien longtemps. D'autres, au contraire, semblent avoir été calibrées à l'avance, sans jamais avoir été désirées, alliance de convenance et de simagrée. Avec Iris, c'était encore autre chose. Entre elles, ça s'était imposé, ça n'avait jamais pu être expliqué. Leur fusion leur était comme tombée sur le nez, dans un élan d'espoir et de spontanéité. À deux, elles s'étaient découvertes auréolées d'une sorte de noblesse, d'audace, tant leur simple union avait fracassé la succession de normalités plus ou moins moyennes qui était leur vie jusqu'alors. À deux, elles avaient réussi à éradiquer les courbatures, les cicatrices, les postures mal assurées. Elles avaient enchanté les lieux de leur quotidien, illuminé, transfiguré, révélé ce qui existait déjà, mais que jamais les notes monotones de la banalité n'auraient su reconnaître. Elles en étaient même venues à oublier qu'il avait pu en être autrement pour d'autres amitiés, d'autres échanges, d'autres partages, qu'en général il fallait prendre des rendez-vous et distinguer ce qui était secret de ce qui ne l'était pas. À deux, elles avaient découvert une continuité tacite, une liberté, une force, une succession de bonheur au goût des après-midi de pluie et du glissement d'un stylo-plume sur une page crémeuse, de madeleine aux amandes, de chocolat au caramel, de seaux endiablés sur la marelle, de cabanes de couverture et de toutes ces choses que seuls les enfants savent vraiment apprécier. À deux, elles avaient bâti une amitié qui était parvenue à leur faire croire que peut-être, un jour, elles retrouveraient l'insouciance bienveillante de l'époque où rien ne comptait vraiment et où la magie se tapissait dans le premier recoin venu. C'est pour une amitié comme celle-ci qu'Anastasia verrait un sens à se battre pour grappiller quelques années, voire à espérer sa guérison. Une amitié sans absence. Une amitié irrationnelle.
Je le trouve vraiment trop beau, ce passage. Donc, j'avoue, quand je l'ai lu, du coup, forcément, j'avais dans l'esprit toi et Philippine.
Bien sûr.
Mais ça m'a aussi fait penser à d'autres amitiés à moi, et j'avoue que j'ai eu les larmes. Et du coup, quand j'ai lu ce passage, je voulais vraiment te poser la question, tu l'as écrit en pensant à toi et Philippine, ou ça n'a rien à voir et je me suis fait de fausses idées?
Je l'ai complètement écrit en pensant à moi et Philippine. En fait, je l'ai écrit en pensant à mes deux amies les plus proches, à savoir Philippine et Julie, qui est l'amie que je me suis faite l'an dernier à Montréal en année d'échange. Et en fait, c'est deux amitiés qui sont à la fois hyper semblables et hyper différentes et hyper complémentaires. Et quand j'écrivais ce passage, je pensais vraiment à ces deux amies, à tout ce qu'elles m'apportent. Et pareil, en fait, c'est sorti hyper naturellement, hyper vite, parce qu'en fait, c'est des choses qui sont ancrées hyper profondément en moi, et c'est des personnes que j'aime plus que tout, et avec qui j'ai tellement de souvenirs et tellement de choses en partage que voilà, c'était un petit hommage à elles.
Et ça te fait pas peur de donner ton histoire à tes personnages? Parce que tes personnages, c'est leur histoire, et il y a ton histoire, et là, c'est les deux qui s'entremêlent. Est-ce que ça te fait pas peur?
Ouais, alors pour ça, déjà, il y a un artifice qui est super, c'est qu'on peut mettre le mot roman sur la couverture. non, mais voilà, c'est tout à fait différent de... Non,
c'est fictif.
Je vois très bien ce que tu veux dire. Je crois que j'avais jamais pensé à ça dans ces termes-là. Je crois que c'est pas quelque chose qui m'effraie, parce qu'en fait, je vois mes personnages m'appartiennent au moment où je les écris, où je raconte leur histoire, mais en fait après, une fois que le roman sort, mes personnages ne m'appartiennent plus, tu vois, genre le lecteur, il les interprète, il se les approprie, ils en font ce qu'ils veulent, Et du coup, ce que j'ai donné de moi à mes personnages, je me le représente plus comme une espèce de message, de tentative de contact avec mes lecteurs, de passerelle, en fait, de façon de créer du lien. C'est pas un sacrifice que je fais en donnant de moi et de mes sentiments à un personnage, et puis après, voilà, je l'abandonne et j'en souffre pas du tout. En fait, je le vois comme une espèce de main tendue vers les gens, parce que, en fait, ce que je constate, c'est que plus on est vulnérable avec les gens, et plus on arrive à être dans le vrai, à être dans des relations qui sont sincères et enrichissantes. Et du coup, voilà, ce que je consens de moi à mes personnages, c'est aussi ce qui me permet derrière d'avoir des retours de lecteurs, d'écrire des textes qui, j'espère, sont justes, et puis voilà, d'arriver à te faire pleurer.
Tu vois, parce que... Bah après, je pense que moi, ça m'a émue comme ça, déjà parce que je suis très émotive, mais
oui,
aussi parce que mes amitiés, elles comptent énormément pour moi. C'est pour ça aussi que j'ai créé ce podcast. Et du coup, forcément, quand il y a des mots qui arrivent comme ça, qui sont aussi justes et qui, forcément, t'impactent par rapport à tes propres relations... Ça te touche, après, je sais pas si tout le monde... je pense pas que tout le monde l'a vécu de la même manière. Mais...
Ouais, j'ai pas envie d'écrire des trucs que je pense pas vraiment, des trucs qui m'inspirent rien, des trucs qui me touchent pas. Enfin, je peux faire un personnage qui ne me ressemble pas, mais j'ai toujours besoin qu'il y ait un lien, même sur un point. Enfin, j'ai besoin d'avoir... J'ai pas envie d'écrire des choses qui reflètent pas ma sensibilité, mon vécu, et donc, au contraire, c'est hyper important pour moi d'arriver justement à faire preuve cette honnêteté-là, cette sincérité-là, quitte après à un peu maquiller avec de la fiction et tout, mais en tout cas, moi, la raison pour laquelle j'écris, la raison pour laquelle j'ai envie de continuer à être écrivaine, c'est parce que j'ai des choses à raconter, j'ai une vision du monde, voilà, à ma petite échelle, mais si ça peut intéresser et toucher des gens, j'ai pas envie de passer à côté de l'occasion de la partager.
Et quelle est ta limite, du coup, entre ta vérité, qui est celle de tes personnages, et ton histoire que tu ne donnes pas à tes personnages, en fait, celle que tu gardes vraiment pour toi, ton jardin privé?
C'est compliqué, comme question, parce que souvent c'est un processus assez inconscient, en fait, quand je donne des morceaux de moi à mes personnages, entre guillemets, je fais pas de façon consciente en me disant, bon, alors là, je vais céder cette histoire de ma vie, Anastasia, tiens, c'est comme ça... Après, voilà, là, on pourrait partir pendant des heures sur le processus de création littéraire, mais c'est des choses qui se font assez intuitivement, de façon assez fluide, et puis on s'en rend compte qu'après coup, avec du recul, moi, vraiment, il y a des choses dans le roman où je me rendais pas compte que ça venait de moi, et en fait, après, quand on m'en reparlait, j'étais là, ah oui, mais dis donc, oui, c'est... Oui, oui, effectivement. Voilà, des choses où tu te rends compte qu'en fait, ça venait de toi. Il y a, bien sûr, une limite, il y a une pudeur, mais... Comment dire ? Elle peut changer, elle peut évoluer. Moi, je crois que là où je mets la limite, c'est sur des choses que j'ai pas forcément besoin de... Enfin, comment dire, sur des détails, sur des choses qu'on n'a pas forcément besoin de savoir pour comprendre ce que j'ai voulu raconter. Mais après, sinon, je m'interdis rien, dans le sens où je parle de choses, de thématiques assez difficiles, assez sombres parfois. Je trouve au contraire que c'est là que c'est plus intéressant. Mais voilà, ce que je vais pas mettre en avant forcément, c'est des détails, des trucs vraiment très, très personnels et finalement très intimes qui n'apporteraient pas grand-chose à l'histoire.
Et donc là, par exemple, pour leur amitié à elle, donc tu t'es inspirée beaucoup de ce que toi t'as pu vivre. Mais est-ce que tu t'es inspirée aussi de romans, de livres, de romans, de films, de séries que t'as pu lire, voir pendant ta jeunesse, parce que t'es encore très jeune.
Et oui.
et qui t'ont marqué, et du coup tu t'es dit, ça t'a inspirée pour créer tes personnages, du moins.
Alors je crois justement que la raison pour laquelle j'avais très envie d'avoir pour héroïne deux meilleures amies, c'est que finalement il y a assez peu de romans, de films, de séries qui ont vraiment pour sujet principal l'amitié. On a souvent des personnages d'amis, de meilleures amies, mais en fait quand on y regarde de plus près, en général c'est la relation romantique qui prévaut, c'est le love interest qui est quand même plus présent. Et le personnage de la meilleure amie, en général, c'est un stéréotype qui est là pour faire le sidekick humoristique, ou alors éventuellement pour qu'il y ait une dispute au moment approprié pour que derrière ça fasse des péripéties. Donc voilà, je crois que déjà mon envie première, c'était de vraiment honorer, mettre à l'honneur l'amitié, et surtout l'amitié féminine, parce qu'on a souvent tendance à, dans la fiction, à dénigrer l'amitié féminine, à dire que les meilleures amies, c'est un peu des pestes, que les filles entre elles ne se soutiennent pas, et ça peut être une réalité, mais de ce que j'observe, c'est loin d'être le cas, et en général, les amitiés entre femmes, entre filles, c'est vraiment des relations très saines et hyper épanouissantes. En tout cas, on va dire, après le collège, oui. C'est particulier, le collège, c'est autre chose. Donc voilà, déjà, il y avait cette envie-là, finalement, de façon... Alors, je vais dire ça va paraître hyper arrogant, mais de créer mon propre modèle et de proposer un truc, voilà. Et après, bien sûr qu'il y a eu des inspirations. Après, tout ça, c'est un peu inconscient, parce que tu te rends pas forcément compte sur le coup. Enfin, tu fais pas forcément une liste en disant « je vais m'inspirer de tel et tel personnage ». Mais très clairement, il y a des personnages qui m'inspirent beaucoup. Je me souviens notamment d'un roman que j'avais lu quand j'étais au lycée, un roman de Clémentine Beauvais qui était sorti à l'édition Sarbacane, qui s'appelle Les Petites Reines, qui est donc un roman jeune adulte vraiment vraiment chouette, qui parle en fait de trois jeunes filles qui sont élues reines des boudins, boudin d'or, boudin d'argent et boudin de bronze dans leur lycée, c'est-à-dire en gros les trois filles les plus moches du lycée, et qui sont évidemment très blessées par ça, et qui en fait vont décider de s'allier, de s'unir et ensemble de se réapproprier leur image, leur histoire. Et donc c'est une histoire hyper drôle et vraiment hyper réjouissante et fraîche que j'avais adorée, et qui justement met vachement à l'honneur le pouvoir apaisant et positif d'une amitié féminine, et comment on peut se s'émuler, s'encourager, s'empouvoirer. Et ouais, je crois que c'est un livre qui m'avait beaucoup marqué, parce que j'avais dû le lire à 14-15 ans, quelque chose comme ça, et ça avait été vraiment une super découverte. Après, dans des exemples peut-être plus récents, au cinéma récemment, je sais pas si t'as vu le film Frances Ha.
Non.
De Noah Baumbach. Alors déjà, je le recommande, c'est super. C'est un film en noir et blanc qui est sur Netflix, il me semble, qui raconte donc l'histoire d'une femme qui s'appelle Frances et qui est un peu paumée dans sa vie, qui voudrait devenir chorégraphe, mais ça se passe pas comme elle veut. Et en fait, elle a une relation compliquée avec sa meilleure amie qui s'appelle Sophie. On les découvre au début du film. En fait, elles vivent ensemble, elles font tout ensemble, elles sont hyper complices, elles mangent ensemble, elles dorment ensemble, elles lisent ensemble, elles regardent des films ensemble. Et en fait, Sophie s'éloigne parce qu'elle déménage avec son copain, et Frances se sent abandonnée. Et en fait, il y a un fossé qui se crée entre les deux. Mais voilà, il va y avoir plein de choses qui vont se passer. Et en fait, c'est un propos hyper juste sur l'amitié et sur comment parfois on s'éloigne, puis on se retrouve, et puis on change, et en fait, c'est pas très grave, et l'amitié évolue, elle grandit, elle se magnifie, et ça m'avait beaucoup touchée comme portrait d'amitié, parce que c'est rare, en fait, d'avoir un regard aussi juste et comment dire, attentif sur une amitié comme ça, et j'avais trouvé que c'était fait avec beaucoup de délicatesse et de pertinence. Donc voilà, j'aime beaucoup. Le film est super, mais j'avais trouvé cette relation aussi hyper intelligente, parce que c'est pas caricatural, en fait, quand elles se disputent, c'est pas la dispute, c'est vraiment, on voit d'où ça vient, et puis même quand elles se disputent, on sent qu'elles s'aiment, en fait, et c'était assez bouleversant.
Oui, c'est pas comme on peut voir dans certaines séries, du crépage de chignon.
Non, clairement pas.
Ah, mon copain, non, vraiment pas,
c'est... T'as cette dynamique où t'as Frances qui comprend bien que Sophie elle a envie d'être avec son copain, et c'est super légitime. En même temps, elle se sent abandonnée, elle sait que c'est pas le cas, mais elle se sent abandonnée. Elle sait qu'elle pouvait pas continuer à vivre ensemble toute leur vie, mais en même temps elle a quand même un peu envie. Elle sait pas si elle peut exister sans Sophie, mais en même temps elle sait qu'elle a besoin d'exister sans Sophie. Et puis voilà, du côté de Sophie, il y a d'autres problématiques. À la fin du film, il y a des éléments de réponse que je ne vais pas divulguer ici. Mais voilà, enfin, j'ai trouvé ça hyper personnel.
Ouais, et puis plein de questionnements aussi sur la place de la relation dans la vie de chacun, quoi. Donc ça doit être hyper intéressant, en tout cas.
Je recommande.
Et puis j'avais une autre question sur tes personnages dans ton livre. Il y a des personnages secondaires, moi, qui m'ont intriguée. Mm-hmm. C'est Grégoire et Garance.
Ouais,
Garance, c'est ça. J'ai eu un doute sur le nom. Donc, c'est des personnages secondaires, donc c'est vrai qu'on les voit pas beaucoup. Enfin, il y a pas beaucoup d'histoires autour d'eux, mais ils sont collègues de travail. Ouais. Ils sont meilleurs amis. Je mets des gros guillemets parce que il y a pas beaucoup de lignes sur eux. Mm-hmm. Mais je pense que t'écrirais un tome 2, ils seraient ensemble, quoi. Enfin.
Ah, tu penses ?
Ah bah ouais, pour moi, en tout cas, ça fait pas de doute que la nana a des vues sur lui.
Ouais.
Après, lui, il est peut-être un peu, pour l'instant, perdu.
Est-ce que du coup, pour contextualiser, Grégoire, c'est le copain d'Iris, avec qui ils sont en couple, très en couple, parce qu'il veut l'épouser, il est très 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 amoureux d'Iris.
Et ça fait 12 ans qu'ils sont ensemble.
Iris s'emmerde passablement dans ce couple, même si elle ne se l'avoue pas. Et donc voilà, Grégoire a pour meilleure amie cette jeune femme qui s'appelle Garance et qui travaille avec lui. Et du coup, tu me demandes ce que...
Ouais, je me suis demandé quand est-ce que tu t'étais arrêtée de te dire ils sont amis ou potentiellement il y a du plus, tu vois.
Je crois que j'ai pas de réponse définitive à cette question-là. Je pense... Bon, alors, c'est mon interprétation, hein, mais à mon avis, Grégoire, il est un peu inconscient de cette dynamique-là. Parce qu'il met vraiment toute son âme et toute son attention dans sa relation avec Iris, et il a besoin de croire qu'Iris est la femme de sa vie, il a besoin de croire que c'est la mère de ses enfants, il a besoin de croire que c'est sa future femme, parce que c'est son premier amour, qu'il a vraiment mis tous ses œufs dans le panier Iris, et donc quelque part il a mis ses œillères et il se concentre sur Iris, et donc il est un peu dans une forme de déni pas très sain, et à côté de ça il y a Garance qui bien sûr s'intéresse à Grégoire, mais là aussi je pense que c'est pas très sain dans la mesure où je sais pas si c'est un amour sincère, je pense qu'il y a quelque chose d'un peu jaloux, d'un peu fantasmé, où elle a une image de lui, tu vois, en fait elle aime ce qu'elle voit de la façon dont Grégoire se comporte avec Iris, et donc je pense qu'elle projette beaucoup de choses là-dessus, tu vois, elle se dit c'est tellement le copain idéal, et je pense que la raison pour laquelle elle est attirée par lui, c'est aussi et surtout parce qu'elle n'est pas avec lui, parce qu'il est inaccessible,
parce qu'il est inaccessible.
C'est son fantasme de mec parfait.
Ouais, mais du coup c'est pas très sain comme relation d'amitié.
Non, c'est pas très sain. Bah oui, parce que toutes les amitiés ne sont pas saines, malheureusement. Mais oui, non, à mon avis c'est pas une relation très saine, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites, et la communication c'est important. Il y a beaucoup d'attentes projetées, donc à mon avis s'il y avait un tome 2 sur Grégoire et Garance, ça ne se passerait pas très bien.
Oui, non, je pense pas. Oui. Non,
je pourrais imaginer un tome 2 où en fait ils se mettraient ensemble et ils seraient persuadés que ça se passerait très bien, et puis en fait
Bah, je suis pas convaincue non plus de l'issue de leur relation, mais que ce soit en termes d'amis ou même en termes si jamais ils essayaient plus. Je pense que les deux sont un peu voués à l'échec si jamais la communication n'entre pas en jeu. Quoi.
Très clairement. Ça se passerait pas très bien. Non, on ne valide pas.
Non mais ok, donc j'ai quand même à peu près bien compris.
Bonne analyse psychologique.
et du coup, oui, donc je t'ai un peu posé la question déjà au début, mais donc depuis que t'as mis un point final à cette histoire, t'as de nouvelles expériences qui sont entrées dans ta vie, t'as des nouvelles personnes aussi, peut-être d'autres qui en sont sorties. Aujourd'hui, t'es en train d'écrire un nouveau roman. C'est une question, hein, parce que je ne sais pas. Quels sont tes nouveaux projets? Est-ce que t'es déjà en train d'écrire quelque chose ou t'es sur autre chose carrément?
Alors moi, j'ai un gros problème dans la vie. J'écris trop et j'écris trop vite.
Donc j'en ai déjà 4 d'avance.
en fait, dit comme ça, tu dis, bah franchement, paye ton problème, c'est pas un vrai problème. C'est un peu un problème parce qu'en fait... quand tu vas trop vite dans un projet, tu peux manquer de recul, et donc là vraiment j'ai tenté de mettre un peu l'œil là, de prendre une vraie pause et de réfléchir à un projet que je prendrais le temps de maturer et de faire aboutir. Et du coup, oui, très clairement, j'ai beaucoup réfléchi sur tout ce qui s'est passé ces derniers mois, c'est cette année qui était quand même une sacrée année, et notamment sur la question de l'amitié. C'est quand même une année où on a... Enfin, j'ai lu récemment un article qui disait que cette année a vu disparaître les amitiés faibles, enfin les liens faibles, les choses comme ça. En fait, on ne voit plus vraiment, tu sais, tous les genre les potes, les copains, les connaissances, les collègues. Tu sais, tous ces gens, on va pas forcément leur écrire toutes les semaines pour prendre leurs nouvelles, mais on est content de les voir et tout. Ça a un peu disparu. Pareil, les amis qu'on voyait que dans certaines circonstances on les voit plus trop, et du coup il y a une vraie redéfinition de toutes ces relations là, et je me suis beaucoup questionnée sur la solitude, tu vois, comment être heureux seul, comment qui est-on quand on est seul, qui est-on par rapport aux autres, est-ce qu'on peut être heureux quand, enfin plein de trucs comme ça qui ont beaucoup infusé, et à ce titre tu vois, j'ai pas encore les réponses, donc ça je pense qu'un jour ça pourrait nourrir une future histoire, et j'aimerais beaucoup à vrai dire, mais bon voilà, je prends le temps, je vais voir parce qu'on est encore en plein dedans. Et du coup pour le projet là sur lequel je travaille en ce moment, oui, c'est des, en fait si tu veux, j'ai écrit une première un premier texte, et en fait je me suis rendu compte que ça n'allait pas du tout, et du coup tu prends le temps de faire une pause, tu réfléchis, tu dis qu'est-ce que je veux raconter, et tu t'en parles à des gens, t'essayes de chercher la vérité de ce que tu veux raconter, et surtout, encore une fois, c'est ce que je disais, c'est il faut l'écrire comme si c'était le dernier. Il faut pas te dire j'écris un roman parce qu'il faut écrire un roman maintenant. Il faut te poser la question de ce qui est essentiel, ce que tu veux raconter. Donc voilà, très encore une fois, de façon très modeste, hein, parce que j'ai pas toutes les réponses, le projet sur lequel je suis en ce moment, c'est vraiment un truc qui me tient beaucoup à cœur, que j'aurais pas été capable d'écrire il y a un an et demi, très clairement, et que j'aime beaucoup et que j'ai hâte de pouvoir me plonger, parce que ça va être très chouette. Et sur la question particulière de l'amitié, c'est justement un roman dont, enfin, je vais pas trop en dire, mais où justement Léo n'a pas d'amis. Et ça va avoir des conséquences.
Ouais.
Donc voilà, un autre okay. regard sur le sujet.
Oh, bah, hâte de voir ça, en tout cas. Du coup, tu nous as fait pas mal de recommandations déjà de choses qui t'avaient inspiré pour écrire Les Déviantes. Mmh. Est-ce que t'as une recommandation de pop culture que tu voudrais faire, un film, un livre, une série, peu importe,
oui.
quelque chose qui t'a inspiré?
Oui, oui, oui. Alors ça, du coup, c'est quelque chose que j'ai vu bien après avoir fini Les Déviantes, mais ça m'a beaucoup plu, et c'est assez chouette, notamment sur les deux personnages de meilleurs amis. C'est donc un film qui s'appelle Booksmart, réalisé par Olivia Wilde, et qui, en fait, raconte l'histoire de deux meilleurs amis qui sont un peu paumés, qui sont un peu les bolos du lycée, qui sont d'excellentes élèves, qui ont passé tout leur lycée à bosser et qui, du coup, entre guillemets, n'ont pas vécu. Et en fait, le jour de la fin du lycée, elles se disent « Ok, puisque c'est comme ça, avant qu'on parte à l'université, il faut vraiment qu'on vive pour de vrai, qu'on ait enfin toutes ces expériences du lycée qu'on n'a pas eues, avec la sexualité, l'alcool, les soirées, la drogue, tout ça, voilà. » Et donc, ça va être cette histoire-là de ces deux meilleurs amis qui sont ensemble, enfin qui sont amis depuis des années, qui se connaissent par cœur, et qui vont un peu essayer de se mettre en danger, de changer, de se challenger, et donc c'est très drôle, c'est très chouette, et puis c'est assez juste sur la façon dont on peut à la fois adorer sa meilleure amie ou ses meilleurs amis, et en même temps leur en vouloir un peu parce que ils nous emprisonnent dans ce qu'on était avant par le passé, ils nous renvoient en permanence à ce qu'on a pu être dans nos années collège, dans nos années lycée, et on se demande comment est-ce que je peux continuer à être amie avec cette personne tout en changeant, tout en essayant de devenir quelqu'un de nouveau, alors que cette personne me rappelle tout le temps qui j'ai été par le passé. Et je trouve le film assez chouette là-dessus.
Ok, voilà. Bah on ira voir ça. Merci beaucoup, en tout cas.
Mais merci à toi.
Et puis bah, on a hâte de lire la suite et puis de découvrir tes autres projets. On en a parlé sans que ça enregistre. On espère que ça verra le jour, en tout
on
cas.
J'espère.
Et puis bah, merci d'avoir été avec nous.
Et merci beaucoup à toi.
Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de Friendship. Tu peux retrouver Capucine sur ses réseaux sociaux qui sont dans la description de l'épisode. Je t'avais promis une surprise, la voilà. Je t'invite fort à rejoindre le compte Instagram du podcast friendship-podcast. Dans quelques jours, je vais publier un concours. Je vais te faire gagner un exemplaire du livre de Capucine, Les Déviantes. Il y en aura 4 en jeu, alors abonne-toi au compte Instagram pour ne pas rater ce premier jeu concours de mon podcast. Et si tu as aimé l'épisode ou si tu as envie de le commenter, n'hésite pas, Friendship est sur Twitter, sur Instagram et sur Facebook. Je serai évidemment très heureuse d'avoir ton retour sur l'un de ces réseaux. Tu peux aussi laisser un commentaire et une très belle note, c'est-à-dire 5 étoiles sur Apple Podcast ou Podcast Addict. Ça aide le podcast à être mieux référencé et ça me soutient dans mon travail. Merci à tous ceux qui ont déjà pris le temps de laisser un commentaire. Et puis en attendant, profite de la vie comme tu peux, entouré de tes amis. Je te donne rendez-vous très vite dans Friendship.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Tu veux créer un podcast, mais tu ne sais pas par où commencer ?
Je pense qu'on a ce qu'il te faut.
Notre programme 30 jours pour créer ton podcast répond à toutes tes problématiques.
La conception de ton projet, le format de ton podcast, les visuels, le titre, l'enregistrement, le matériel, l'hébergeur, le montage, la communication, tout est réuni en un seul endroit pour faciliter le lancement de ton podcast.
Mais au fait, nous, c'est qui nous ?
Moi, c'est Florence, créatrice et hôte du podcast « Avant, j'étais prof ».
Et moi, c'est Solène, créatrice et hôte du podcast Friendship.
À nous deux, on a publié plus de 140 épisodes et réuni 120 invités à nos micros.
Notre aventure podcastique a connu de nombreux rebondissements.
L'euphorie du lancement.
La solitude.
Les doutes.
La persévérance.
La passion.
Et enfin, les audiences qui décollent.
Au fil des années, nous avons affiné notre expertise.
Et aujourd'hui, nous te dévoilons toutes nos techniques pour créer ton podcast en toute sérénité.
Alors, n'attends plus pour faire entendre ta voix.
Rejoins-nous dès maintenant sur formationpodcast.podia.com et le podcast n'aura plus aucun secret pour toi.